Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Villon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 19 avril 2023. Au Soudan, des milliers d'habitants fuient les combats et toujours aucune issue en vue. Au Tchad, un nouveau conflit entre éleveurs et cultivateurs fait 22 morts. Le recours à des supplétifs pour seconder les armées dans la lutte contre le terrorisme prend de l'ampleur dans les pays du Sahel.
Mais aujourd'hui, je pense que, au regard de la situation sécuritaire dans les différents pays comme le Mali, le Niger et le Burkina, la coopération n'est pas encore pour le lendemain.
Dans la partie magazine, Bakary Sam, directeur général de Timbuktu Institute à Dakar. 15 migrants portés disparus en Méditerranée après être partis de la Tunisie. L'Inde va devenir le pays le plus peuplé du monde d'ici le milieu de l'année, selon l'ONU. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. On commence par les États-Unis. La Cour suprême doit se prononcer sur une pilule abortive largement utilisée dans le pays qui se retrouve au cœur d'un casse-tête judiciaire depuis qu'un juge a sémé la confusion en voulant suspendre son autorisation de mise sur le marché. Moins d'un an après avoir annulé la protection constitutionnelle de l'avortement, la haute cour à majorité conservatrice a été saisie en urgence par le gouvernement de Joe Biden après des décisions de justice contradictoires. Une cour d'appel russe a confirmé aujourd'hui une peine de 8 ans et demi de prison infligée à l'opposant Ilya Yashin pour ses critiques contre l'offensive de Moscou en Ukraine. Son procès avait été particulièrement suivi en Russie car il était l'un des derniers opposants russes de premier plan à ne pas avoir fui son pays ou à ne pas avoir été emprisonné. L'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé de la planète devant la Chine d'ici le milieu de 2023, selon les dernières estimations de l'ONU, une position que le géant sud-asiatique est susceptible de conserver pendant des siècles. Mouhamadou Moufa.
Selon les estimations de l'ONU, l'Inde va compter 1,429 milliards d'habitants au milieu de cette année, dépassant la Chine de près de 3 millions d'habitants, qui, elle, atteindra 1,426 milliards d'habitants. Au contraire de la Chine qui publie ses données chaque année, l'Inde n'a pas recensé sa population depuis 2011. Elle s'élevait alors à 1,21 milliard d'habitants. Les certificats de naissance ne sont devenus obligatoires en Inde qu'en 1969 et le recensement décennal prévu en 2021 a été retardé par la pandémie de coronavirus avant de s'enliser dans les problèmes logistiques. Le gouvernement nationaliste du Premier ministre Narendra Modi est accusé par ses détracteurs de retarder délibérément le recensement afin de ne pas rendre public des données sur des questions sensibles comme le chômage avant les élections nationales de l'an prochain.
Réunion internationale sur l'Afghanistan prochainement à Doha. Selon une source onusienne, la réunion qui devrait se tenir autour du 1er mai a lieu à l'initiative du secrétaire général lui-même. Il n'a pas été possible de savoir à ce stade si les talibans y seraient représentés. Les Nations Unies ont annoncé le 4 avril que les talibans interdisaient aux femmes afghanes de travailler avec l'ONU dans tout le pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
15 migrants sont portés disparus après le naufrage en Méditerranée d'un bateau qui les transportait clandestinement vers les côtes européennes. C'est ce qu'ont indiqué mercredi les gardes-côtes. Le point avec Rosine Monezero.
L'embarcation, partie du littoral oriental de la Tunisie, transportait en tout 19 migrants tunisiens, a précisé la garde nationale, autorité de tutelle des gardes-côtes. 4 ont pu être sauvés par un pêcheur après son naufrage dans la nuit de lundi à mardi, alors que les 15 autres sont portés disparus, selon la même source qui indique que les recherches pour retrouver les migrants disparus se poursuivaient mercredi dans la matinée. La semaine dernière, 32 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont péri en mer en tentant la périlleuse traversée. Les départs de migrants africains de Tunisie se sont intensifiés après un discours le 21 février du président tunisien Kais Saied pourfendant l'immigration des subsahariens, la présentant comme une menace démographique pour son pays. La Tunisie traverse une grave crise politico-économique qui pousse aussi de nombreux Tunisiens à essayer de gagner clandestinement l'Europe par la mer au risque de leur vie.
En Côte d'Ivoire, les élections régionales et municipales se tiendront le 2 septembre, a annoncé Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Ces élections permettront de faire l'état des lieux des forces politiques avant la présidentielle de 2025. Il s'agira du premier scrutin pour le Parti des peuples africains créé par l'ex-président Laurent Gbagbo peu après son retour à Abidjan en juin 2021. La France a rappelé ce mercredi sa disponibilité à accompagner la Guinée vers un retour des civils au pouvoir à l'occasion de la visite de la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou. La secrétaire d'État française rencontrera les militaires au pouvoir à Conakry ainsi que les représentants des partis politiques et de la société civile afin d'évoquer le processus de transition en cours, indique un communiqué de l'ambassade de France à Conakry. Des milliers de civils fuient les bombes au Soudan où les combats entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée régulière ont fait plus de 270 morts en 5 jours. Le point avec Jacques Aristide.
À pied ou en voiture, sur des routes jonchées de cadavres et de blindés calcinés, des milliers d'habitants tentent de passer sous les tirs croisés des paramilitaires menés par Mohamed Hamdan Daglo et de l'armée que dirige Abdel Fattah al-Bourhane. Les deux généraux à la tête du Soudan depuis leur putsch conjoint de 2021 et qui se disputent désormais le pouvoir demeurent sourds aux appels incessants à un cessez-le-feu même temporaire pour évacuer les civils. L'armée de l'air et l'artillerie des deux camps bombardaient 9 hôpitaux de Khartoum. En tout, 39 des 59 hôpitaux des régions touchées par les combats ont été mis hors d'usage ou contraints de fermer, rapportent des médecins. Dans un pays de 45 millions d'habitants où la faim touche plus d'un tiers de la population, humanitaires et diplomates disent ne plus pouvoir travailler. L'Égypte voisine tente de récupérer un nombre de ses militaires enlevés dans le nord par les hommes de Daglo. Le Japon, pour sa part, a indiqué aujourd'hui qu'il s'apprêtait à évacuer ses ressortissants, devenant le premier pays à prendre une telle mesure.
Au moins 22 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad. Les autorités accusent des rebelles venus de Centrafrique d'avoir été à l'origine de ces conflits. Alexandrie Loloyon.
Les affrontements ont eu lieu en début de semaine. Lundi, des cultivateurs de la communauté Kodo ont attaqué des campements d'éleveurs Peul Foulata dans le département des Monts de Lame, à plus de 600 km au sud de N'Djamena, la capitale. Selon le gouverneur de la province du Logone oriental, les Kodo ont tué des éleveurs Peul. En riposte, les Foulata ont tué plusieurs d'entre eux. Bilan, au moins 22 morts et plusieurs blessés. Les affrontements souvent très meurtriers entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires sont très fréquents dans la région. Les agriculteurs accusent les éleveurs de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. Mais cette fois, le gouverneur accuse les Kodo d'être des rebelles tchadiens retranchés en Centrafrique. Les pouvoirs au Tchad et en Centrafrique s'accusent mutuellement d'entretenir sur leur territoire des bases rebelles.
Un ancien premier ministre du Burundi, Alain Guillaume Bunyoni, est recherché par la justice qui a mené plusieurs perquisitions sans le localiser, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Premier ministre depuis 2 juin 2020, le très influent Alain Guillaume Bunyoni a été démis de ses fonctions le 7 septembre par le président Evariste Ndayishimiye et remplacé par le ministre de l'Intérieur Gervais Indira Kobusha. Le chef de l'État burundais avait dénoncé dans un discours quelques jours auparavant des velléités de coup d'État de la part de ceux qui se croient tout puissants et tentent de saboter son action. Une accalmie fragile s'est installée dans l'est de la République démocratique du Congo, mais le risque d'une reprise des combats reste réelle, a expliqué aujourd'hui l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs d'Afrique, Wang Xia, au Conseil de sécurité. Il a noté avec satisfaction que le déploiement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est se poursuit et que les échanges peu diplomatiques entre Kigali et Kinshasa ont diminué. M. Xia a salué les initiatives de paix régionale, le processus de Luanda qui vise au rétablissement d'une relation apaisée entre la RDC et le Rwanda et le processus de Nairobi mené par la communauté d'Afrique de l'Est. Meurtre de 9 Chinois en Centrafrique, l'enquête accuse les rebelles, selon le gouvernement de Bangui. Les auteurs de l'assassinat sont incontestablement des éléments de la CPC, a déclaré aujourd'hui le ministre centrafricain de la Justice, Arnaud Djoubaï Abazen, en citant le rapport final de l'enquête. Les 9 Chinois ont été tués le 19 mars dans une mine d'or dans le centre du pays. Bangui avait immédiatement accusé la coalition des patriotes pour le changement. Le groupe rebelle avait aussitôt nié et accusé en retour le groupe paramilitaire russe Wagner. Et puis, au Nigeria, 8 étudiantes du secondaire kidnappées dans le nord-ouest du pays ont échappé à leur ravisseur 2 semaines après avoir été enlevées sur le chemin de l'école, a fait savoir le commissaire à la sécurité de Kaduna. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
En RDC, le gouvernement a prorogé la suspension de la perception de la TVA sur certains produits. À en croire Financial Afrique, le premier ministre Samalou Kondé a signé le 15 avril 2023 deux décrets portant prorogation de la suspension de la perception de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier et sur les produits de première nécessité. Les taxes sur les transactions de mobile money auxquelles recourent certains États africains pour tenter de renflouer leurs caisses risquent de freiner les progrès réalisés en matière d'inclusion financière sur le continent. C'est ce que révèle l'agence Ecofin qui cite un rapport publié par l'opérateur sud-africain de téléphonie mobile Vodacom Group. Le site spécialisé souligne que le mobile money a transformé la vie de centaines de millions d'Africains et boosté la croissance économique sur le continent. Netflix compte désormais un peu plus de 232 millions d'abonnés et a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 8 milliards de dollars. Le vétéran du streaming a en outre annoncé qu'il arrêterait d'ici la fin de l'année son service historique de location de DVD par courrier lancé il y a 25 ans.
Page des sports, VO Afrique, signé Eric Manirakiza. Ligue des champions, le Real Madrid et l'AC Milan dans le dernier carré.
Le Real Madrid, tenant du titre, a écarté Chelsea pour accéder aux demi-finales de la Ligue des champions. Un niveau que l'AS Milan retrouve après 16 ans d'absence grâce à son match nul à Naples hier mardi. Dans le dernier carré, un choc se profile entre le Real de Karim Benzema et Manchester City impérial contre le Bayern avant le retour ce mercredi à Munich. Et un derby de Milan se dessine si l'Inter ne se fait pas surprendre par Benfica à San Siro.
Et Guardiola se méfie d'un Bayern qui croit dans ses chances.
Je sais qu'ils croient qu'ils peuvent le faire, a prévenu mardi l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, alors que le Bayern Munich doit remonter un retard de 3 buts pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Vainqueur 3-0 du quart de finale aller de la Ligue des Champions à l'Etihad Stadium, les Citizens de Pep Guardiola sont en position de force avant d'aborder le match retour à l'Allianz Arena, mais le technicien espagnol se méfie de son ancien club, lui qui a entraîné le Bayern de l'été 2013 au printemps 2016.
Mort de Maradona, procès confirmé pour l'équipe médicale.
La justice argentine a confirmé mardi en appel le procès à venir de 8 professionnels de santé qui avaient été renvoyés devant la justice l'an dernier pour négligence potentielle ayant entraîné la mort de Diego Maradona en 2020. Maradona, icône en Argentine et légende du football mondial, est décédé d'une crise cardio-respiratoire le 25 novembre 2020 à 60 ans, seul sur un lit médicalisé d'une résidence de Tigre au nord de Buenos Aires où il était en convalescence après une neurochirurgie pour un hématome à la tête.
Football américain, 3 mois après son arrêt cardiaque, le joueur des Buffalo Bills de retour à l'entraînement.
Damar Hamlin, victime d'un arrêt cardiaque durant un match en janvier, a fait son retour à l'entraînement mardi dans l'espoir de reprendre à 25 ans sa carrière dans la Ligue américaine de football américain. NFL, ce que j'ai vécu a changé ma vie, mais ce n'est pas la fin de mon histoire, a déclaré Hamlin à l'issue de sa première séance d'entraînement depuis plus de 3 mois. Le 2 janvier, lors d'un match de saison régulière du championnat NFL, opposant son équipe à Cincinnati. Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque à la suite d'un terrible choc subi en plaquant un adversaire. Après être resté plusieurs jours dans un état critique, il avait repris connaissance et quitté l'hôpital le 11 janvier.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le conflit au Soudan a suscité des appels mondiaux en faveur d'un cessez-le-feu, mais des questions subsistent sur la manière dont les autres pays peuvent persuader les combattants de déposer les armes. Les représentants américains au Congrès et à la Maison-Blanche disent qu'ils utilisent le statut de Washington et son influence limitée pour tenter de faire la paix. Anita Powell de la VOA, le récit est de Michel Joseph.
Depuis samedi, les combats font rage à Khartoum. Deux généraux s'affrontent pour dominer le pays et les civils sont pris entre deux feux. Le chef de la diplomatie américaine a révélé avoir transmis un message au chef des forces armées soudanaises et des forces paramilitaires de soutien rapide. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
This morning, I made calls to Generals Burhan and Hamedi.
J'ai appelé les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hamedi, le général Mohamed Hamdan Daglo, pour les exhorter à accepter un cessez-le-feu de 24 heures pour permettre aux Soudanais de retrouver leur famille en toute sécurité et de recevoir l'aide humanitaire dont ils ont désespérément besoin.
Le général Abdel Fattah al-Burhan et général Mohamed Hamdan Daglo, alias Hamedi, ont été alliés pour mener le coup d'État en 2021, puis se sont retournés l'un contre l'autre. Au début du mois, des manifestants sont descendus dans les rues après l'échec des négociations sur la transition vers un régime civil. La Maison-Blanche assure qu'elle travaille d'arrache-pied pour ramener la paix, mais refuse de dire quelles seraient les conséquences si les belligérants refusent de comprendre. Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche.
Nous avons été très clairs sur l'importance de la désescalade. Et vous avez entendu le secrétaire Blinken en parler. Vous avez entendu mon collègue en parler également. Je ne vais pas aller au-delà de ce qu'ils ont dit.
Les législateurs américains, qui connaissent bien le continent, affirment que les enjeux sont très élevés. Le sénateur Chris Coons du Delaware.
Je n'ai pas perdu l'espoir qu'il existe encore une voie vers la fin de la violence, mais nous devons nous préparer à la possibilité très réelle que le Soudan soit sur le point de sombrer dans une guerre civile totale. Je crains que cela ne devienne rapidement une guerre par procuration.
Les États-Unis, qui viennent à peine de rétablir leurs relations avec le Soudan, pour le moment ont peu de marge de manœuvre. Les liens entre Washington et Khartoum sont depuis longtemps tendus et les États-Unis ont suspendu leur aide au Soudan lors du coup d'État de 2021. Cameron Hudson, associé principal au Centre d'études stratégiques et internationales.
Je pense que le défi ici est que le levier qui reste à Washington n'est pas celui qu'il veut mettre sur la table. Et c'est l'utilisation de mesures punitives. Je pense qu'au cours des 6 derniers mois, Washington, et même depuis le coup d'État, a utilisé une stratégie d'engagement et une stratégie d'incitation pour tenter d'amener les généraux à renoncer au pouvoir. Le problème est que dans l'histoire du Soudan, ces généraux n'ont pas l'habitude de répondre aux incitations, tout comme ils gouvernent le pays par la peur, l'intimidation et leurs propres mesures punitives. C'est à cela qu'ils répondent eux-mêmes.
Ce travail a commencé. La Ligue arabe, l'Égypte et les Nations unies, l'Union africaine et l'IGAD ont fait savoir qu'elles œuvraient pour la paix, mais personne ne sait quand les combats dévastateurs vont se terminer.
Certains pays du Sahel font recours aux supplétifs de l'armée, des forces auxiliaires, comme les VDP au Burkina. Ils sont recrutés localement et largement utilisés pour aider les armées nationales à lutter contre les groupes terroristes et les mouvements rebelles. Leur utilisation présente des avantages et des inconvénients. Pour en parler, Eric Manirakiza s'est entretenu avec le directeur général de Timbuktu Institute à Dakar, Bakary Samb. Il était l'invité de notre nouvelle émission Focus Sahel.
Oui, cette stratégie qui est née au Burkina Faso suite au Forum national sur la sécurité de 2017-2018 a été adoptée pour pallier le manque, les manquements de l'armée régulière. Et ça a commencé par les Kogliogo, qui étaient des chasseurs d'oiseaux. Et l'avantage, c'était d'impliquer la communauté dans la défense et dans la sécurité, ce qui un peu correspondait à la notion de sécurité humaine, etc., différemment de la sécurité classique. Mais les inconvénients, on les a vus tout de suite arriver, c'est que avec la communautarisation du djihad et la stigmatisation de certaines communautés, ce modus operandi a facilement viré vers des heurts intercommunautaires avec aujourd'hui une illisibilité totale de cette action-là, si l'on sait que l'armée, même malgré tous les efforts, en tout cas malgré toutes les démonstrations de force, n'arrive pas à contrôler la situation sur place.
Et quels sont les risques de l'utilisation de ces supplétifs en termes de violation des droits de l'homme et de la sécurité publique?
Oui, avant même la violation des droits de l'homme, je vous ai dit tout à l'heure que cela conduit à des heurts intercommunautaires. Si vous mettez des dozos, si vous mettez des Kogliogos, on a vu l'expérience au Mali, hein, on l'a vu dans le centre du Mali avec les Ganda Koy et Ganda Iso et sous tous ces milices d'autodéfense jusqu'au massacre d'Ouassagou. Mais au Burkina, si vous utilisez des Kogliogos, si vous utilisez des VDP, en leur disant que vous devez combattre les terroristes et que vous stigmatisez une communauté particulière, notamment la communauté Peul, comme étant la communauté qui regorge des terroristes, vous êtes en train de créer, de semer les germes de conflits intercommunautaires à n'en plus finir. C'est-à-dire que l'armée n'a pas compris qu'aujourd'hui, il y a une communautarisation du djihad et que 90% de ce qu'on nomme aujourd'hui comme djihadistes au Burkina Faso sont des Burkinabés. Donc je pense que face à la faillite sécuritaire, naturellement l'armée n'arrive pas à redresser la situation malgré les promesses de la junte depuis son arrivée au pouvoir, et face aussi à la recrudescence des attaques, au moins 4 attaques par jour, c'est la moyenne au Burkina Faso aujourd'hui, je crois qu'il y a une faillite du système sécuritaire qui ne devrait pas nous conduire vers un enlisement, mais plutôt vers une réflexion sur comment parler aux communautés, comment instaurer un véritable dialogue, parce qu'il s'agit plus de problèmes de cohésion sociale et d'insertion des communautés que de problèmes de terrorisme à proprement parler aujourd'hui. Apparemment, l'armée ne l'a pas compris.
Faut-il inscrire cette stratégie dans les politiques de coopération et de coordination entre les différents pays de la région dans la lutte contre le terrorisme et comment?
Oui, il faut aller vers la notion de sécurité humaine. Différemment de la sécurité classique dont l'acteur principal est l'État, dans la sécurité humaine, c'est toute la communauté qui est impliquée, etc. Mais il faut le faire en prenant en compte les réalités locales. Aujourd'hui, il y a une communautarisation de ces conflits-là. Je pense pas au Niger, par exemple. Le problème a été géré par des dialogues avec les communautés. Je pense que ça pourrait inspirer le Burkina et le Mali dans une moindre mesure. Mais aujourd'hui, je pense que au regard de la situation sécuritaire dans les différents pays comme le Mali, le Niger et le Burkina, la coopération n'est pas encore pour le lendemain. Et je crois que le Burkina Faso doit, et d'autres pays même du Golfe de Guinée, doit prendre la mesure de la gravité de la situation et entamer des dialogues avec les communautés, travailler sur la cohésion sociale, lutter contre toutes les formes d'ostracisme contre les communautés, notamment la communauté Peul.
Bakary Samb, directeur général de Timbuktu Institute à Dakar au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Mali, le groupe État islamique au Grand Sahara a pris lundi le contrôle de Tidermène, au nord de Ménaka, dans l'est du Mali. Les combats ont provoqué des déplacements massifs de population vers Ménaka, sécurisé par l'armée et la MINUSMA. Nathalie Barge a joint Adey Maïga, président de la plateforme des femmes du mouvement pour la signature de l'accord d'Alger, qui parle de la situation des femmes et enfants arrivés dans cette ville proche de la frontière avec le Niger.
La situation de Nenaka, elle est très critique parce qu'il y a beaucoup de déplacés avec les islamistes qui avancent, parce que toutes les bourses sont vides. Ils ont chassé tout le monde de la bourse, donc tout le monde est à Nenaka. Donc la situation est très critique. Après Andramouka, maintenant c'est Kidermen qui est en train de rejoindre Nenaka. Il y a tellement de déplacés, je ne peux pas vous dire exactement les noms bien. Je sais qu'il y a beaucoup de déplacés parce que partout, sur les dunes, sur les arbres, partout il y a des tentes, les gens sont partout à Nenaka.
Quelles sont les répercussions sur les femmes et sur les enfants de cette situation?
Vous savez, quand il y a conflit, c'est toujours la femme qui souffre. C'est elle qui perd son mari, il y a les orphelins, c'est elle qui devient des veuves. Elles ont tout perdu, elles n'ont plus rien. Nous, les femmes du Nord, on n'a pas fait grandes études. On n'a pas été à l'école, on s'est débrouillé. Une femme qui perd son mari, qui perd ton enfant, tu n'as plus de soutien, tu n'as pas de boulot, comment tu vas vivre? Une femme qui va se retrouver avec 5 à 6 orphelins, comment tu vas survenir aux besoins de tes enfants-là? Comment tu vas éduquer les enfants-là? Tu n'as rien, tu ne travailles pas. Il y a des femmes qui sont complètement ménagées, elles n'ont absolument rien. Elles ne savent pas ni faire du commerce, ni rien. Elles ne connaissent que l'élevage. Et les animaux aussi sont tous, ils ont amené tous les animaux. Elles ne connaissent rien si ce n'est pas l'élevage. Elles ont leur lait, elles utilisent leur lait. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'animaux pour avoir du lait, il n'y a plus rien. Elles sont obligées de s'adapter à la vie sédentaire. Et la vie sédentaire et la vie normale, ce n'est pas la même chose. Actuellement, là où on est, il y a les moyens qui nous manquent beaucoup. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants sont là dans la rue. Donc maintenant, notre seul souci, comment essayer de prendre les enfants là en charge et puis de les mettre à l'école? Parce que quand on va laisser les enfants dans la rue comme ça, c'est une autre catastrophe. Déjà, ils ont perdu leurs parents. Ils sont en train de rester dans la rue, en train de marcher. Il faut qu'on nous aide pour essayer de les cadrer pour l'année prochaine, pour les scolariser, les mettre à l'école, pour éviter les délinquants de la rue.
Adey Maïga, vous êtes présidente des femmes des mouvements signataires de l'accord d'Alger. La paix n'est pas revenue. Donc, qu'auriez-vous à dire sur cet accord?
Maintenant, il y a un autre maître sur le terrain qui n'est pas le mouvement. Donc, on est obligé entre nous, des Maliens, de se donner la main et puis d'échanger pour essayer de voir comment on va gérer la situation. Actuellement, il n'y a aucun mouvement qui gère qui sur le terrain. Les islamistes qui sont en train de les faire la guerre, c'est les populations qui souffrent. Donc, on est obligé de revenir sur la table de négociation pour échanger avec l'État. Il y a certains de nos mouvements qui ont créé la panique au Mali. Aujourd'hui, ils sont là, maintenant, ils ne peuvent plus régler. Ils sont plus maîtres du terrain, ils ont été chassés de leur village. Les bouches sont complètement cerclées. Mais maintenant, quand ils sont mettre les moyens pour ne pas donner l'occasion aux gens de s'accaparer des Menaka.
Adey Maïga, présidente de la plateforme des femmes du mouvement pour la signature de l'accord d'Alger, jointe à Menaka dans l'est du Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Gabon, à l'instar d'autres grands centres urbains du pays, le centre hospitalier universitaire de Libreville abrite une caravane médicale gratuite, une opération initiée par le gouvernement dans le but de soulager les patients vulnérables. Au menu des consultations gratuites, en dehors des examens de radiologie et laboratoire, qui sont entièrement facturés aux usagers non assurés. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Il n'est pas toujours évident de prendre rendez-vous chez un médecin spécialiste. Avec la caravane médicale gratuite, les usagers du centre hospitalier universitaire de Libreville sont tenus de prendre leur mal en patience. Jean-Claude veut rencontrer un neurologue depuis ce matin.
Parce qu'on m'a donné même les ordonnances à la CNAM, là. Comme je n'avais pas les moyens pour aller faire, voilà, je crois que j'ai pas pu faire depuis midi, je suis là.
Vous êtes sûr que vous serez reçu?
Je ne sais pas trop, puisque ceux qui sont reçus là, ils sont qui ont donné le nom depuis 11 ans. Oh, je suis là depuis midi.
Là, vous avez l'air fatigué.
Ah ouais.
Une longue file d'attente s'est formée devant les services de consultations externes. Parmi les usagers prioritaires, ceux immatriculés à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Henri est un candidat non assuré.
Pour que ça se passe, hein, il a fallu beaucoup de complications. En fait, ce n'est pas toujours bien organisé. Il faut qu'il fasse plus beaucoup d'attention et puis un peu de technicité. Alors, les réponses de fois ne sont pas belles. Pas de bonnes réponses, il faut forcer, puis on arrive à la maison épuisé. Sinon, parce qu'après ici, il faut aller payer les médicaments. Voilà. Si, effectivement, parce que c'est fait pour ça, normalement. Oui. Ah, voilà.
Les usagers admis en consultation passent préalablement par le service d'enrôlement de Priscatina. Elle est l'une des représentantes de la Caisse d'assurance maladie au CHU de Libreville.
Les patients, quand ils arrivent, ils vont d'abord aux côtés du CHUL, là, l'hôpital général, voir les dames, récupérer un coupon. Et après, ils viennent, ils se font enregistrer ici. Et après, ils vont chez les collègues ici, se faire enregistrer sur les feuilles de soins CNAMGS. Après, ils vont voir le médecin. C'est une caravane médicale, on ne paye pas.
C'est la procédure avant d'aller chez le médecin spécialiste. Seni Bungeza fait partie des internes de l'hôpital qui accueille et oriente les patients.
On écoute son histoire, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a ressenti. Et par rapport à ce qu'il va nous dire, on va l'examiner et demander des points d'examen.
Prévues simultanément dans les 9 provinces du Gabon, ces missions médicales de proximité sont financées par l'État avec le concours des entreprises selon le gouvernement qui refuse de s'avancer sur les chiffres avant la fin de l'opération. Libreville, Ismaël Dionzé pour VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Mio à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.